Chapitre 1. Après l'affaire Harry Kébert. Montréal, Québec. 5 avril 2010. Le hasard du calendrier avait voulu que le début du tournage coïncide avec la parution de la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Porté par mon triomphe en librairie, le film suscitait déjà l'enthousiasme général et les premières images avaient fait grand bruit à Hollywood. Tandis que dehors, un vent froid faisait virevolter les flocons, à l'intérieur des studios, on se serait cru au cœur de l'été. Dans le décor d'une rue passante dont le réalisme était saisissant, les acteurs et les figurants, éclairés par de puissants spots, semblaient être piqués par un soleil brûlant. C'était l'une de mes scènes préférées du livre. À la terrasse d'un café, au milieu d'une foule de passants, les deux protagonistes, Marc et Alicia, se retrouvent enfin après s'être perdus de vue pendant des années. Ils n'ont pas besoin de parler, leurs regards suffisent à rattraper le temps qu'ils ont perdu l'un sans l'autre. Assis derrière les écrans de contrôle, je suivais la prise. Coupé ! S'écria soudain le réalisateur, rompant cet instant de grâce. C'est la bonne ! À ses côtés, le premier assistant répercuta l'injonction à la radio. C'est la bonne ! Fin de journée ! Aussitôt, le plateau se transforma en fourmilière. Les techniciens remballèrent leur matériel, tandis que les acteurs regagnaient les loges sous les regards déçus des figurants qui auraient aimé un échange, une photo ou un autographe. Pour ma part, je déambulais à travers le décor. La rue, les trottoirs, les lampadaires, les vitrines, tout semblait si réel. Je pénétrais dans le café, plein d'admiration pour le soin donné aux détails. J'avais le sentiment de me promener dans mon roman. Je me glissais derrière le comptoir débordant de sandwichs et de pâtisseries. Tout ce qui pouvait se voir à l'écran devait paraître vrai. Ma contemplation fut de courte durée. Une voix m'arracha à mes pensées. « Vous faites le service, Goldman ?» C'était Roy Barnaski, le fantasque PDG de Schmidt & Hansen, la maison d'édition qui me publiait. Il avait débarqué de New York le matin même sans crier gare. « Un café, Roy ?» proposai-je en attrapant une tasse vide. « Donnez-moi plutôt l'un de ces sandwichs, je meurs de faim. » J'ignorais si les produits étaient comestibles, mais sans m'en inquiéter, je tendis à Roy une composition de dinde et de fromage. « Vous savez, Goldman, » me dit-il après avoir mordu goulûment dans les épaisses tranches, « ce film va faire un tabac. On a d'ailleurs prévu une édition spéciale de G comme Goldstein. Ça va être sensationnel. » Ceux d'entre vous qui ont lu la vérité sur l'affaire Harry Kébert n'ignorent rien de mes rapports ambivalents avec Roy Barnaski. Pour les autres, il suffit de savoir que ses affinités avec ses auteurs variaient en fonction de l'argent qu'il en tirait. Dans mon cas, alors que 2 ans plus tôt il me vouait aux gémonies pour n'avoir pas livré mon roman à temps, les ventes records de la vérité sur l'affaire Harry Kébert me conféraient désormais une place de choix dans son panthéon des poules aux œufs d'or. « Vous devez être sur un petit nuage, Goldman !» poursuivit Barnaski qui n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il m'importunait. « Le succès du livre et maintenant ce film. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand j'ai fait des pieds et des mains pour que ce soit Cassandra Pollock qui joue le rôle d'Alicia et que vous m'avez accablé de 1000 reproches. Regardez comme ça en valait la peine. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle est sensationnelle. » Ça, je ne suis pas prêt de l'oublier, Roy. Vous avez fait croire à tout le monde que nous avions une liaison. Et voyez le résultat. J'ai toujours de bonnes intuitions, Goldman. C'est pour ça que je suis le grand patron. D'ailleurs, si je suis venu ici, c'est pour vous parler d'un sujet très important. À l'instant où je l'avais vu débarquer à l'improviste sur le tournage, j'avais su qu'il n'était pas venu à Montréal sans une bonne raison. « De quoi s'agit-il » demandai-je. « C'est une nouvelle qui va vous faire plaisir, Goldman. Je voulais vous l'annoncer de vive voix. » Barnaski prenait des gants, ce n'était pas bon signe. « Allez droit au but, Roy !» Il se lança. « On est sur le point de décrocher un contrat d'adaptation pour la vérité sur l'affaire Harry Kébert avec la MGM. Ça va être énorme ! Tellement énorme qu'il voudrait signer un accord de principe très rapidement. » « Je ne crois pas vouloir en faire un film, » répondis-je très sèchement. « Attendez de voir le contrat, Goldman. Rien qu'à la signature, c'est 2 millions de dollars pour vous. Vous gribouillez votre nom en bas d'une page et paf, 2 millions de dollars tombent sur votre compte en banque. Et ça, c'est sans parler de l'intéressement sur les bénéfices du film et tout le reste. Je n'avais aucune envie d'argumenter. Parlez-en à mon agent ou à mon avocat, suggérai-je pour couper court. Ce qui agaça prodigieusement Barnaski. Et si l'avis de votre agent merdique m'intéressait, Goldman, je ne serais pas venu jusqu'ici. Et ça ne pouvait pas attendre mon retour à New York? Votre retour à New York? Vous êtes pire que le vent, Goldman. Vous ne tenez pas en place. Harry ne voudrait pas d'un film, dis-je en faisant la moue. Harry? S'étrangla Barnaski. Harry Kébert? Oui, Harry Kébert. La discussion est close. Je ne veux pas d'un film car je ne veux plus me replonger là-dedans. Je veux oublier cette affaire. Je veux tourner la page. Mais écoutez-moi ce bébé qui pleurniche, s'emporta Barnaski qui ne supportait pas la contradiction. On lui tend une louche de caviar, mais bébé Goldman fait des caprices et ne veut pas ouvrir la bouche. J'en avais assez entendu. Barnaski regretta de m'avoir brusqué et essaya de se rattraper en prenant une voix de miel. Laissez-moi vous expliquer le projet, mon petit Marcus. Vous verrez, vous allez changer d'avis. Je vais commencer par changer d'air. Dînons ensemble ce soir. J'ai réservé dans un restaurant du Vieux-Montréal. Disons 20h. J'ai un rendez-vous ce soir, Roy. On se parle à New York. Je le plantai là, avec son ersatz de sandwich dans la main, et je quittai le décor pour rejoindre l'entrée principale du studio. Juste avant les grandes portes battantes se trouvait un stand de restauration. Tous les jours après le tournage, je m'y arrêtais pour prendre un café. C'était toujours la même serveuse. Elle me tendit un gobelet en carton rempli de café avant même que je prononce le moindre mot. Je souris pour la remercier. Elle me sourit en retour. Les gens me sourient souvent. Mais je ne sais plus s'ils me sourient à moi, le frère humain qu'ils ont vu, ou à l'écrivain qu'ils ont lu. Justement, la jeune femme brandit dessous son comptoir un exemplaire de la vérité sur l'affaire Harry Kébert. « Je l'ai terminé hier soir, » me dit-elle. « Ah, ce bouquin, on ne peut pas le lâcher. Est-ce que vous accepteriez de me le signer ?»«
Mais avec plaisir. Votre prénom ?»«
Déborah. » »«
Déborah, bien sûr. Elle me l'avait déjà précisé 10 fois. » Je sortis un stylo de ma poche et j'écrivis sur la page de garde la phrase rituelle que j'utilisais pour mes dédicaces. « Pour Déborah, qui connaît désormais toute la vérité sur l'affaire Harry Kébert, Marcus Goldman. »
« Bonne journée, Déborah, » la saluai-je en lui rendant son exemplaire. « Bonne journée, Marcus. À demain. »
« Je rentre à New York demain, je serai là dans 10 jours. »«
À bientôt, alors. »
Au moment de m'éloigner, elle me retint.
« Est-ce que vous l'avez revu ?» me demanda-t-elle.
« Qui ça ?»«
Harry Kébert. »
« Non, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. » Je passai la porte des studios et m'engouffrai dans la voiture qui m'attendait.
« Avez-vous revu Harry Kébert ?» Depuis la sortie du livre, on n'avait cessé de m'interroger à ce sujet. Et chaque fois, je m'efforçais d'y répondre comme si la question ne m'ébranlait pas, comme si je n'y pensais pas tous les jours. Où était Harry ? Et qu'était-il devenu ?
Après avoir longé le Saint-Laurent, la voiture remonta en direction du centre-ville de Montréal, dont je pus bientôt voir les gratte-ciels se détacher devant moi. J'aimais cette ville. Je m'y sentais bien. Peut-être parce que quelqu'un m'y attendait. Depuis quelques mois, il y avait enfin une femme dans ma vie. À Montréal, je logeais au Ritz-Carlton, toujours dans la même suite du dernier étage. Je venais de franchir les portes de l'hôtel lorsque le réceptionniste m'arrêta pour m'informer que j'étais attendu au bar. Je souris. Elle était arrivée. Je la trouvai installée à une table discrète à côté de la cheminée, sirotant un Moscow Mule, encore vêtu de son uniforme de pilote. Quand elle m'aperçut, son visage s'illumina. Elle m'embrassa, je l'enlaçai. Plus je la voyais, plus elle me plaisait. Regan était âgée de 30 ans comme moi. Elle était pilote de ligne pour Air Canada. Nous nous fréquentions depuis plus de 3 mois. À ses côtés, ma vie me semblait plus pleine, plus accomplie. C'était un sentiment d'autant plus fort que j'avais eu toutes les peines du monde à rencontrer quelqu'un qui me plût vraiment. Ma dernière relation sérieuse datait de 5 ans, une fille prénommée Emma Matthews, et n'avait duré que quelques mois. Ainsi, en achevant d'écrire la vérité sur l'affaire Harry Kéber, je m'étais promis de me consacrer à ma vie amoureuse. J'avais donc multiplié les aventures, mais sans grand succès. Peut-être m'étais-je mis trop de pression. Chacune de mes rencontres avait vite pris des allures d'entretien d'embauche. Observant celle qui me parlait depuis quelques minutes à peine, je me demandais si elle ferait une bonne partenaire et une bonne mère pour mes enfants. Et l'instant suivant, ma mère, jaillissant de mon esprit, débarquait telle une intruse. Elle attrapait une chaise vide, s'asseyait à côté de la malheureuse et se mettait à lui trouver une foule de défauts. Et ma mère, ou plutôt son spectre, devenait l'arbitre du rendez-vous. Elle me glissait, reprenant à son compte une expression éculée qu'elle affectionnait particulièrement. « Marquis, est-ce que tu penses que c'est la bonne ?» Comme s'il fallait nous engager pour la vie, alors qu'au fond nous ne savions même pas si nous survivrions jusqu'au soir. Et comme ma mère me prêtait un grand destin, elle ajoutait « Dis donc, Marquis, tu t'imagines à la Maison Blanche, à la cérémonie de remise de la médaille de la liberté avec cette fille à ton bras ?» Cette dernière phrase était en général prononcée avec dédain, comme pour me faire renoncer. Et je renonçais. C'est ainsi que ma pauvre mère, à son insu, ne fit que prolonger mon célibat. Jusqu'à ce que, grâce à elle également, je rencontre Regan. 3 mois plus tôt, 31 décembre 2009. Comme toutes les veilles de Nouvel An, j'étais allé à Montclair, dans le New Jersey, pour rendre visite à mes parents. Alors que nous prenions le café dans le salon, ma mère eut alors cette phrase idiote qu'elle prononçait parfois et qui m'agaçait prodigieusement. « Que peut-on te souhaiter pour la nouvelle année, mon chéri, toi qui as déjà tout ?»« Retrouver un ami perdu ?» répondis-je piqué au vif. « Un de tes amis est mort ?» s'inquiéta ma mère qui n'avait pas compris l'allusion. « Je parle de Harry Kéber, précisai-je. Je voudrais le revoir, savoir ce qu'il est devenu. « Au diable, ce Harry Kéber ! Il ne t'a apporté que des ennuis. Les véritables amis n'apportent pas d'ennuis. Il m'a permis de devenir un écrivain. Je lui dois tout. Tu ne dois rien à personne, à part à ta mère, à qui tu dois la vie. Marquis, tu n'as pas besoin d'amis, tu as besoin d'une petite amie. Pourquoi n'as-tu pas une petite amie ? Tu ne veux pas me donner des petits-enfants ? Difficile de rencontrer quelqu'un, maman. » Ma mère s'efforça d'adopter un ton adouci. « Marquis chéri, je crois que tu ne fais pas assez d'efforts pour trouver quelqu'un. Tu ne sors pas assez. Je sais que parfois tu passes des heures à regarder un album de photos de toi et de ce Harry Kéber. »«
Comment le sais-tu ? » demandai-je surpris.
« Ta femme de ménage me l'a dit. »
« Depuis quand tu parles avec ma femme de ménage ?»«
Depuis que tu ne me racontes plus rien. »
À cet instant, mon regard se posa sur une photo encadrée. On y voyait mon oncle Saul, ma tante Anita et mes cousins Hillel et Woody en Floride.
« Tu sais, si ton oncle Saul... » murmura ma mère.
« Ah, ne parlons pas de ça, maman, s'il te plaît. »
« Je voudrais juste que tu sois heureux, Marquis. Tu n'as aucune raison de ne pas l'être. »
J'avais envie de m'en aller. Je me levai et attrapai ma veste.
« Que fais-tu ce soir, Marquis ?»
demanda ma mère. « Je sors avec des amis, » mentis-je pour la rassurer. Je l'embrassai, j'embrassai mon père, puis je partis. Ma mère avait raison. Je conservais chez moi un album dans lequel je me plongeais chaque fois que je me sentais nostalgique. De retour à New York, c'est d'ailleurs ce que je fis. Je me servis un verre de scotch et je feuilletai l'album. La dernière fois que j'avais vu Harry, c'était exactement une année plus tôt, un soir de décembre 2008, lorsqu'il avait débarqué chez moi pour un dernier face-à-face. Depuis, plus le moindre signe de vie. En voulant l'innocenter du meurtre dont on l'accusait et laver son honneur, je l'avais perdu. Il me manquait terriblement. J'avais évidemment essayé de retrouver sa trace, en vain. J'étais régulièrement retourné à Aurora, dans le New Hampshire, où il avait vécu les 30 dernières années. J'avais arpenté pendant des heures cette petite ville, des heures à errer devant sa maison de Goose Cove, en tout temps, à toute heure, le retrouver, pouvoir tout réparer.
mais Harry ne réapparaissait jamais. Alors que j'étais plongé dans mon album, ressassant les souvenirs de ce que lui et moi avions été, mon téléphone fixe se mit à sonner. Pendant un instant, je crus que c'était lui. Je me précipitai pour répondre. C'était ma mère.
« Pourquoi est-ce que tu réponds, Marquis ?»
me réprimanda-t-elle.
« Parce que tu me téléphones, maman. »« Marquis, c'est le soir du Nouvel An. Tu m'as dit que tu étais chez des amis. »
« Ne me dis pas que tu es seul chez toi à regarder encore ces satanées photos. Je vais demander à ta femme de ménage de les brûler. »«
Je vais la renvoyer, maman. À cause de toi, une femme dévouée vient de perdre son emploi. Tu es contente ?»«
Sors de chez toi, Marquis. Je me souviens quand tu étais encore au lycée et que tu allais à Times Square pour le passage à la nouvelle année. Appelle des amis et sors. C'est un ordre. On ne désobéit pas à sa mère. »
C'est ainsi que je rejoignis Times Square, seul, car en vérité, je n'avais pas d'amis à appeler à New York. En arrivant aux abords de la place, envahi par des centaines de milliers de personnes, je me sentis bien, apaisé. Je me laissais porter par la marée humaine. C'est à ce moment-là que je tombai sur une fille qui buvait une bouteille de champagne. Elle me sourit. Elle me plut aussitôt.
Lorsque minuit sonna, je l'embrassai. C'est ainsi que Reagan entra dans ma vie. Après notre rencontre, Reagan m'avait rendu visite à New York à plusieurs reprises, et nous nous retrouvions à Montréal lorsque je venais sur le tournage. Au fond, après 3 mois de relation, nous nous connaissions encore à peine. Nous programmions nos retrouvailles entre 2 vols ou 2 journées de tournage. Mais en ce soir d'avril, au bar du Ritz de Montréal, je ressentis pour elle quelque chose de fort. Et alors que nous parlions de je ne sais plus très bien quoi, elle passa haut la main le test maternel. Je l'imaginais dans différentes situations de vie, et pour chacune d'elles, je la voyais parfaitement à mes côtés. Reagan assurait le vol du lendemain matin à 7 heures pour New York JFK. Lorsque je lui proposai de sortir dîner, elle suggéra de rester plutôt à l'hôtel.
« Le restaurant de l'hôtel est très bien, » dis-je.
« Ta chambre est encore mieux ?» sourit-elle. Nous nous enfermâmes dans ma suite pour la soirée. Nous nous prélassâmes longuement dans l'immense baignoire, admirant par la baie vitrée et à l'abri de notre bain moussant et brûlant la neige qui continuait de tomber sur Montréal. Puis nous commandâmes du service en chambre. Tout semblait facile. Il régnait une osmose entre nous. Mon seul regret était de ne pouvoir passer davantage de temps avec Reagan. En cause, la distance géographique. J'habitais New York et elle, une petite ville à 1 heure au sud de Montréal où je n'étais même pas encore allé. Mais surtout, ses horaires contraignants de pilote qui l'accaparaient. Nos retrouvailles ce soir-là n'échappèrent d'ailleurs pas à la règle et une fois encore, la nuit fut courte. À 5 heures du matin, alors que l'hôtel dormait encore, Reagan et moi terminions de nous préparer. Par la porte de la salle de bain, je la contemplai. Vêtue de son pantalon d'uniforme, mais ne portant qu'un soutien-gorge, elle était en train de se maquiller tout en buvant une tasse de café. Nous partions tous les deux pour New York, mais séparément. Elle par les airs, moi par la route, car j'étais venu jusqu'à Montréal en voiture. Je la conduisis jusqu'à l'aéroport Trudeau. Au moment où je m'arrêtais devant le terminal, Reagan me demanda « Pourquoi n'être pas venu en avion, Marcus ?» J'eus un instant d'hésitation, je ne pouvais décemment pas lui avouer ce qui justifiait mon choix. « J'aime la route entre New York et Montréal, » mentis-je. Elle ne se contenta qu'à moitié de cette explication.
« Rassure-moi, tu n'as pas peur de l'avion ?»«
Bien sûr que non. » Elle m'embrassa et me gratifia d'un « Je t'aime bien quand même. » Je m'enquis. « Quand est-ce que je te revois ?»«
Quand est-ce que tu reviens à Montréal ?»«
Le 12 avril. »
Elle consulta son agenda.
« Je serai à Chicago pour la nuit et j'enchaîne avec une semaine de rotation sur Toronto. » Elle remarqua ma mine déçue. « Ensuite, j'ai une semaine de congé. Je te promets qu'on aura du temps ensemble à ce moment-là. On va s'enfermer dans ta chambre d'hôtel et on n'en bougera pas. »
« Et si on partait quelques jours ? » suggérai-je. « Ni New York, ni Montréal. Juste toi et moi quelque part. »
Elle hocha la tête avec conviction, m'offrant son plus beau sourire. « Ça me plairait beaucoup, » murmura-t-elle. «
comme si c'était une confidence à moitié avouable. Elle m'embrassa longuement, puis elle quitta l'habitacle, me laissant nourrir plein d'espoir sur ce que nous pourrions devenir ensemble. Tandis que je la regardais disparaître dans le bâtiment de l'aéroport, je décidai de prendre les devants et d'organiser une escapade romantique dans un hôtel des Bahamas qu'on m'avait vanté. Harbor Island. Je pianotai aussitôt sur mon téléphone portable et consultai le site internet de l'hôtel. L'endroit, niché sur une île privée, semblait paradisiaque. Voilà où nous allions passer sa semaine de congé, sur une plage de sable fin au bord d'une mer turquoise. Je fis immédiatement la réservation, puis je me mis en route pour New York. Je traversai les cantons de l'Est jusqu'à Magog, où je m'arrêtai pour acheter un café, avant de descendre vers la petite ville de Stanstead, limitrophe des États-Unis, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'on y trouve la seule bibliothèque au monde à être à cheval entre deux pays. Au moment de passer la frontière, le douanier américain qui contrôla mon passeport me demanda machinalement d'où je venais et où je me rendais. Comme je répondais que j'allais de Montréal à Manhattan, il m'indiqua « C'est pas la route la plus directe pour rejoindre New York ». Croyant que je m'étais égaré, il me donna les instructions pour rejoindre l'autoroute 87. Je l'écoutai poliment, sans avoir la moindre intention de suivre ses indications. Je savais parfaitement où j'allais. J'allais à Aurora, dans le New Hampshire, là où mon ami Harry Kéber avait passé la majeure partie de sa vie avant de disparaître sans laisser d'adresse.